Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio. X.
On a un deal. En fait, je trouve que la nouvelle est un peu mal spinée parce qu'on n'a pas encore de deal. On a un pre-deal. On a un texte quand même assez court. Je l'ai entre les mains, le texte au complet de l'accord qui a été signé en signature électronique. Comme on faisait pendant COVID, là, on signait nos paperasses sur un petit document qu'on nous envoyait. Mais quand même, ça a été signé des deux bords. Je ne sais pas exactement qui signe du bord de l'Iran, mais en tout cas, du côté des États-Unis, c'est Donald J. Trump qui a signé ça.
C'est une bonne question, pareil.
Ben.
Parce qu'il y en a un qui a l'air qui n'est pas fort.
C'est parce que tu as l'Assemblée législative en Iran, mais tu as aussi la gang de la Révolution. Là. Fait que c'est dur à dire. Ben garde, on va ouvrir le micro de notre chroniqueur qui, d'ailleurs, sévit à tous les jours sur 7 jours sur Terre. Trouvez ça sur YouTube. Benjamin, mon ami Benjamin Tremblay, comment ça va?
Ça va très bien, JC. Merci d'ouvrir mon micro, me sortir de ma cave.
Es-tu soulagé? On a un deal! On a un deal!
On a un début d'entente de deal. Ouais, on a un début. On pourrait dire que les Américains et les Iraniens n'ont pas encore consommé le mariage. On est encore au préliminaire.
On ne sait pas ça va être consommé sous quelle religion, ce mariage-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, Trump l'a quand même vendu de même. Là. C'est fait, c'est réglé, ouais. On avance, tout en soulignant quand même pour une centième fois que si le deal n'est pas respecté dans les 60 jours, si on n'a pas une entente, « I'm gonna bomb the hell out of them! » Puis ça va être, on est retourné aux menaces originales. Est-ce que tu as confiance qu'on va se ramasser avec un vrai deal?
Absolument pas. Vraiment absolument pas. Les Iraniens ont vraiment joué un coup spectaculaire là-dessus parce que ce qu'ils ont obtenu, dans le fond, c'est énormément de concessions pour très peu de contreparties de leur côté. Ce qu'ils ont convenu... Puis ça, ce matin, d'ailleurs, je veux juste qu'on clarifie, là, ce matin, j'ai lu quelque chose de complètement lunaire. Ça m'a fait me taper dans le front à deux mains où les Iraniens, dans la structure actuelle du deal, sont convaincus, en fait, c'est écrit noir sur blanc, qu'après le 60 jours, ils peuvent charger des frais sur Hormuz.
Oh!
Ça, c'est ce qu'ils ont compris, là. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Là. C'est qu'actuellement, le deal.
En fait, c'est que dans le deal, ils disent qu'ils vont avoir le contrôle du détroit d'Hormuz.
Exact. Exact. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir une ouverture d'Hormuz pendant 60 jours, le pétrole va sortir. Mais eux, la compréhension qu'ils ont, c'est qu'au bout du 60 jours, ils prennent contrôle du détroit conjointement avec l'Oman, dans lequel ils vont charger des frais de transit, de navigation. On n'a pas le droit de charger des péages dans le droit international. Fait qu'eux déjà se positionnent, se posturent pour dire « Non, c'est des frais pour des services de navigation. C'est qu'on vous aide à vous retrouver dans le détroit, fait que vous nous payez pour ça. » Fait que les Iraniens, là-dessus, déjà, ils ont une vision si on veut, de l'après-guerre qui est manifestement pas celle des Américains. Ça, c'est un premier point. Là. Il y a des trucs sur lesquels on semble pas s'être entendu encore. Puis là, tu parles même pas du programme nucléaire.
Non.
Où là, on nous dit, ben, on botte la canne un peu plus loin dans le chemin, puis éventuellement, on va essayer de négocier quelque chose spécifiquement pour le programme nucléaire. Mais là, les deux nous disent encore une fois, les Iraniens disent, on garde notre stock nucléaire, on garde notre uranium enrichi. Les Américains disent, il peut pas rester en Iran, on va arriver à une solution. Fait que c'est juste ça. On part de la bonne foi qu'effectivement, ils vont être capables de négocier quelque chose, mais il y a rien qui nous dit que les conditions vont changer dans 60 jours-là. Ouais, ensuite,
Benjamin, dit... juste avant, là, tu sais, là-dessus, là, moi, déjà, tu me parles de la bonne foi du régime iranien. Je veux dire, sinon, mais c'est parce que, regarde, le point numéro 8, je l'ai ici. Là. La République islamique d'Iran réaffirme qu'elle ne se procurera ni ne mettra au point d'armes nucléaires, comme dans les trois derniers deals qu'ils ont signés.
Ah oui, exactement. Ben c'est ça, les Américains vont essayer d'implémenter, puis ça, c'est ce qu'on rencontre. Le deal n'est vraiment pas à hauteur de ce qui avait été signé par Obama précédemment, puis c'est vraiment spectaculaire de le voir, parce que Trump avait promis qu'il allait améliorer cette entente-là. Puis là, on constate que, justement, les mécanismes de vérification, d'imputabilité, de réglementation qui existaient sous Obama, où là, on avait des inspecteurs, on avait des caméras en permanence 24 heures sur 24 dans les installations nucléaires iraniennes. On voyait ce qui se passait dans les salles de centrifuge. On avait vraiment le droit de rentrer quand on voulait. Fait que c'était tous des éléments qui avaient été enchâssés dans l'entente comme pour s'assurer d'abord que les Iraniens allaient respecter leur partie du deal. Là, on se mentionnait tout à l'heure, la question nucléaire, c'est juste un bout. Ensuite, bon, sur les missiles, on s'était dit qu'on allait réduire la capacité de l'Iran à posséder des missiles, à menacer les pays de la région. C'était un des objectifs principaux des Américains au début de la guerre. Là, on nous dit, Trump lui-même, en fait, dit verbalement au G7, bah, vous savez, tous les pays ont le droit à avoir des missiles. Si les Iraniens y en veulent, bah, ils ont le droit d'en avoir. On ne peut pas les empêcher de se défendre. Fait que ça, c'est un discours aussi qui est complètement incompatible. Mais moi, ce que je trouve le plus dangereux dans cette entente-là, je vais être très sincère, au-delà de toutes les questions qui n'ont pas été négociées, là, sur les sanctions, tout ça, où là, clairement, les attentes de l'un ne sont pas les attentes de l'autre, mais moi, c'est Israël. C'est que là, Israël était déjà en train de déchirer sa chemise à dire non, c'est quoi cette entente-là? Ça n'a aucun sens, à cause spécifiquement du Liban.
Bien, le,
là,
Liban, le Liban est partout dans le texte. Là. Donc, on a les Iraniens ont carrément mis le Liban en entremetteur. Donc, nous, on est là-dedans, le Liban aussi. Donc, Israël, puis ça inclut les États-Unis et leurs alliés, et l'Iran et leurs alliés. Donc, techniquement, Israël est inclus dans ce deal-là. Eux autres nous disent, on n'est pas là, nous autres, on n'a pas négocié rien. Là.
Ben exactement. Eux autres sont en colère parce qu'ils disent on était expulsés du cockpit. On était dans le cockpit avec Trump à déterminer comme copilote la trajectoire de l'avion, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on atterrit. Puis là, ben nous sort du cockpit, on se ramasse en arrière dans la soute, puis on apprend qu'il y a un deal qui est signé. Fait que fuck you, on n'est pas parti de ce deal-là d'aucune manière. Maintenant, t'as absolument raison. Les Américains, c'est là qu'ils ont, ils ont fait une concession au nom d'Israël, essentiellement, alors qu'Israël occupe une grosse partie du Liban en plaidant qu'elle se défend contre le Hezbollah. Ben, les Iraniens disent, nous, on ne fait pas de deal tant qu'il ne sort pas du Liban entièrement. Puis ça, c'est là qu'il y a vraiment le gros, gros flou en ce moment. C'est que les Iraniens disent, non, il n'est pas question de, il faut arrêter les frappes sur Beyrouth ou il faut arrêter les frappes dans le sud du Liban, mais vous pouvez continuer à occuper. Non. On veut l'intégrité territoriale. Tu l'as l'entendre devant toi, c'est écrit textuellement. Ouais, intégrité territoriale, ça veut dire vous sacrez le camp du Liban, puis à partir de maintenant, vous n'avez pas le droit d'y retourner. Ce serait une agression qui briserait le cessez-le-feu. Ce matin même, les Israéliens continuent à bombarder au Liban. Ils continuent à occuper, puis ils nous disent ouvertement, Netanyahou fait une déclaration là-dessus il y a quelques heures, à dire « on va continuer à occuper le Liban, les Iraniens peuvent aller se remettre ça ». Écoute, il me semble que c'est très clair qu'on s'en va une trajectoire de collision totale.
Est-ce qu'on va aller, puis historiquement, moi, j'ai jamais vécu dans un monde où Israël n'était pas l'allié des États-Unis, même très proche à certaines époques. Est-ce qu'on s'en va vers un monde où cette amitié de longue date-là va se briser?
Les Américains sont en train de prévenir très clairement, là, ce matin même, J.D. Vance qui donnait une conférence de presse puis qui a attaqué ouvertement Israël, qui disait que Trump, en fait, pour reprendre ses propos, en soi, ses propos sont extrêmement controversés et extrêmement provocateurs. Il va dire, en ce moment, Trump, c'est le seul chef d'État dans le monde qui est un allié d'Israël. Autrement dit, tout le monde vous haït à cette heure. Ben oui, vous êtes mieux de rester aligné puis de dire, écoutez, là, puis il dit ouvertement, il dit, c'est nous qui avons détruit le 2/3 des missiles qui allaient s'écraser sur Israël. Si jamais ils ne veulent pas perdre leur plus gros allié, ils sont mieux d'embarquer à bord puis d'arrêter de chialer.
Mais en tout cas, il n'y a pas tort, là.
Ah, ça peut pas être plus direct. Puis là, il y a une raison pour laquelle on passe par J.D. Vance. C'est un proxy de la Maison-Blanche. On veut que les Israéliens comprennent que la prochaine étape, ça va être beaucoup plus sérieux que ça. Puis effectivement, si les Américains décident d'arrêter l'appui à Israël, que ce soit même pas total, juste d'arrêter l'appui militaire, d'arrêter l'appui diplomatique ou politique ou financier ou de retenir certaines munitions, ça serait suffisant pour reconfigurer l'attitude d'Israël considérablement.
Et là, la grosse verrue, le point numéro 6. Je pense que je vais te le lire au complet avant de te laisser commenter, parce que là, j'entends plein d'affaires. Puis il y a une chose, OK, à retenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Trump a dit ça ». Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit sur le papier.
Donc, le cash.
Le point numéro 6. Les États-Unis d'Amérique s'engagent avec leurs partenaires régionaux à élaborer un plan définitif et convenu d'un commun accord d'un montant d'au moins, donc qui n'est pas chiffré complètement, 300 milliards de dollars américains pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d'Iran. Le mécanisme de mise en œuvre de ce plan sera finalisé dans le cadre d'un accord définitif dans un délai de 60 jours, les fameux 60 jours. Toutes les licences, dérogations et autorisations requises pour les transactions financières concernées seront accordées par les États-Unis d'Amérique. Trump, depuis hier, passe son temps à dire que ce n'est pas l'argent des Américains, ce ne sera pas l'argent du gouvernement. Mais ce n'est pas écrit ça dans le texte. Et je me demande d'où va venir cet argent.
Oui, exactement. Bien là, la proposition qui est mise... D'abord, il faut comprendre le contexte. À quel point c'est une concession énorme des Américains. Depuis le début, les Iraniens nous disaient « Vous avez lancé la guerre. Vous nous devez de la reconstruction. Vous nous devez des réparations. On n'arrêtera pas le processus de cessez-le-feu. On négociera pas autre chose qu'une compensation. C'est typique, c'est traditionnel dans des guerres d'agression. Vous devez compenser. » Et donc ça, les Iraniens, ils tenaient absolument. Tu comprends que les Américains, surtout pour Trump, c'était impensable de penser d'arriver avec un chèque. Ben oui. Alors, ce serait perdre la face de la pire espèce. Fait que là, ce qu'on a convenu, c'est-à-dire, regarde, eux autres, les Iraniens demandaient, puis ils l'avaient chiffré, là, 400 milliards US. Les Américains sont revenus en disant « Regarde, on va te donner 300 milliards, mais ça ne peut pas venir de nos comptes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faciliter des investissements qui sont essentiellement, bon, on s'entend, là, c'est des gens qui sont dans le Golfe, ce sont les pays du Golfe eux-mêmes, ce sont des entreprises privées, ce sont des corporations américaines qui vont voir les raffineries démolies, les réseaux de pipelines démolies, qui vont voir les routes à refaire, les établissements, l'infrastructure détruite et qui viennent essentiellement investir dans la reconstruction. Ouais. Maintenant, soyons très clairs. C'est vrai que c'est pas de l'argent américain. C'est vrai que c'est pas de l'argent du gouvernement. Maintenant, est-ce que c'est de l'argent iranien? Non.
Non.
Ça reste quand même que c'est de l'argent du capital étranger qui sert à quoi? À la reconstruction de l'Iran. Soyons très clairs sur ce que c'est. C'est l'Iran qui a gagné fondamentalement son débat sur la reconstruction. Qui s'est dit, vous nous devez de l'argent.
C'est une réparation.
Et pas à peu près.
Carrément.
Ah oui, carrément. Maintenant, comment tout ça s'est organisé? C'est une autre question. Puis on s'entend, il y a aussi la possibilité d'entente secrète. Où là, Trump a commencé par nous dire, non, il n'y a pas de 300 milliards, c'est pas vrai. Et non seulement il niait, il était en colère contre les Iraniens, les traitant de déshonorables parce qu'il avait vu ces informations-là dans la presse. Et moi, je soupçonne qu'il y a deux ensembles de conditions qui ont été convenues. Des conditions publiques qui sont rendues publiées à travers l'entente qu'on voit actuellement. Puis il y a probablement un appendice, une espèce d'annexe privée qui vient ajouter à ça. Parce que, notamment sur la question des sanctions, les Américains refusaient absolument de libérer l'argent confisqué aux Iraniens. Encore une fois, puis ça paraît mal politiquement. Si on est capable de convenir de ça en privé, en secret, et ça, c'était la Maison-Blanche, carrément, qui disait aux journalistes américains, « Ouais, on va peut-être avoir une autre entente pour ça, en privé, ça se peut que ce soit jamais publié. » Ensuite, sur la question du retrait américain du Golfe, on demandait, « Il faut que vos troupes s'en aillent de la région.
Oui. »
Ça fait pas partie de l'entente actuellement.
Mais pas du Détroit, là, du Qatar, de l'Arabie Saoudite,
complet.
De partout, là, c'est ça.
Ah ouais, de l'Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, on dit, « Vous en allez, puis vous sortez de notre cour arrière. Ça devient notre espace stratégique. Les Américains, on ne peut pas accepter ça publiquement. Maintenant, tout indique effectivement que les pays du Golfe sont en train de se préparer à un départ des Américains. Fait qu'il y a peut-être des conditions qui sont en privé. Maintenant, sur le 300 milliards, c'est que les Américains, moi, ce que je trouve qui est fascinant là-dessus et qui est le plus incroyable, d'abord, on lève toutes les sanctions. Puis d'abord,
oui.
On a dit oui à peu près à tout ce que l'Iran a demandé, mais surtout, là, ce que ça nous dit, on avait des pays du Golfe qui, eux, s'emprêtent à investir là, en Iran en quantité massive, à hauteur, on nous dit, 300 milliards, puis il y aurait déjà la moitié du fonds qui a été promis, si on veut,
okay.
Qui est déjà commis par des États du Golfe. Fait que là, on aurait des États qui vont investir 300 milliards dans leur ennemi naturel. Ce que ça fait, fondamentalement, c'est que ça les transforme, si on veut, c'est un peu une normalisation des relations avec l'Iran. Soudainement, ces pays du Golfe font un peu devenir des parties prenantes de la reconstruction, puis de la stabilité de l'Iran, nécessairement. À partir de maintenant, si toi, t'as investi pour construire la raffinerie, en échange, t'as des parts
ben
dans
oui,
la raffinerie,
ben oui.
Tu reçois des... Ben là, on vient essentiellement d'aligner l'Iran avec le reste des pays
Absolument.
Du Golfe.
Donc, si tu attaques l'Iran, t'attaques des intérêts étrangers.
Exactement. Donc, pourquoi eux attaqueraient l'Iran? Pourquoi Israël? Israël aurait pu la marge de manœuvre. Les États-Unis pourraient pu attaquer des infrastructures qui sont effectivement la propriété de leurs alliés du Golfe. Fait que je te dis, on semble vraiment être en train de préparer la désertion américaine de la région. Où là, on est en train de dire, regarde, on doit réorganiser l'architecture sécuritaire. On ne sera plus jamais ici pour vous défendre. Donc, voici à partir de maintenant comment ça fonctionne.
Ouais.
L'Iran est le maître incontesté du Golfe.
Oui, puis c'est de la politique. Les élections de mi-mandat s'en viennent. Ça commence à être dérangeant. On va laisser ça aller. Regarde, ils s'arrangeront. Et on verra. Et dernière question. Qui a signé pour l'Iran? Est-ce que c'est les Frères de la Révolution? C'est le gouvernement?
Ils nous disent que c'est le gouvernement, que ce serait Ismaël Bagaïa qui est impliqué dans des négociations depuis un bon moment.
Là, on aurait... sont pas d'accord, là.
Ça, je veux le dire en passant. Il y a quelque chose de lunaire aussi là, qui vient de se produire hier. Trump avait dit... J'ai signé électroniquement. Ils ont signé électroniquement. L'entente est signée, c'est réglé, c'est fait, c'est officiel. Les Iraniens ont exigé que Trump signe physiquement une copie papier à Versailles.
Oui, j'ai vu ça, c'est capoté.
Puis il l'a fait! Il l'a fait!
C'est capoté.
Alors, puis juste pour la symbolique qu'ils ont demandé ça, là. Puis juste pour placer les gens historiquement, c'est que le traité de paix...
Ben, il était déjà signé,
après la Première Guerre mondiale, a été signé à Versailles. Le deuxième, à Versailles. Oh. Versailles, l'endroit symbolique pour capituler. Et là, les Iraniens qui ont forcé Trump, pendant qu'il était au G7 à Versailles, de dire, en passant, là... Signe-moi donc une copie physique pendant que t'es là.
Ouais, puis il l'a signé.
Et il l'a signé! Fait que déjà là-dessus, je trouve ça extraordinaire. Mais encore plus, c'est sur la question de qui a signé quoi. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait aussi une signature additionnelle qui aurait lieu, une cérémonie, une fois que l'entente complète serait faite, entre Masoud Pezeshkian, le président, et Trump lui-même. Disons-le, Mojtaba Rahmani, on l'a toujours pas vu. Et on parle d'une signature dans 2 mois. Et les Iraniens présument encore qu'il ne sera pas là. Donc, je ne sais pas ce qui arrive avec l'ayatollah. Manifestement, il a été blessé très sérieusement. Possible qu'il soit encore incapacité actuellement, oui.
Oui, puis ça se peut qu'à l'interne, parce qu'on n'a pas beaucoup de vision, on ne peut pas vraiment savoir exactement ce qui se passe en Iran, mais je ne suis pas certain que c'est Kumbaya aujourd'hui en Iran, là, entre eux autres, là.
Non, exactement. Puis c'est beaucoup aussi de pourquoi des informations ont coulé à partir des Iraniens. Puis Trump disait, vous êtes déshonorables, tout ça. C'est parce que les Iraniens doivent aussi vendre cette entente-là à leur population.
Ah oui.
À une population qui s'est sacrifiée beaucoup dans les derniers mois, justement, pour aller chercher ce leverage-là, ce levier stratégique. Et ils veulent être convaincus qu'ils ne l'ont pas concédé pour rien. Donc, les Iraniens ont une grosse propension actuellement à exagérer un peu aussi la victoire elle-même.
Benjamin, merci. Toujours un plaisir. Bonne semaine.
Merci à vous. Bye-bye.
Salut. Bye. Benjamin Tremblay et tout ce qui se passe Iran, États-Unis. Pas certain, moi, que dans 60 jours, on souffle des bougies puis on a un gâteau. Là. Pas certain.
Ah,
oh, j'aimerais ça, là, mais...
Ah oui, donc!
Oui, j'aimerais bien ça. On revient.
Ouellet.
Vraiment, là, ça coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.